Les informations, Camille Magnard. Bonjour Camille.
Bonjour à toutes et à tous. C'est donc la troisième mouture déjà du gouvernement d'Édouard Philippe. Le remaniement ministériel attendu depuis une semaine a été officialisé hier soir. Christophe Castaner reste secrétaire d'État, mais il doit céder la fonction de porte-parole du gouvernement à Benjamin Griveaux. Et c'est finalement Bercy qui sort renforcé de ce jeu de chaise musicale avec deux nouveaux secrétaires d'État pour le prix d'un, Ludovic Piétonu.
Seulement deux entrants et tous deux arrivent à Bercy, un socialiste, une prise, le député de l'Ardèche Olivier Dussopt, 39 ans, président de l'association des petites villes de France, est un bon connaisseur des territoires et des finances locales. Il aura la charge, aux côtés de Gérald Darmanin, venu des Républicains, de la fonction publique. C'est un travailleur assez discret, passé de Martine Aubry il y a 10 ans à Manuel Valls il y a un an et aujourd'hui à La République En Marche. La totale inconnue en politique, une femme de 49 ans qui vient du privé, Delphine Jenny-Stéphane, directrice du plan et de la stratégie chez Saint-Gobain. Gobin, toujours à de très hautes fonctions chez ce fleuron français. Auparavant, à Bercy, une maison qu'elle connaît donc bien, c'est un aller-retour. Ce n'est pas une marcheuse, mais elle connaît bien Hervé Guémard qui a participé à la campagne d'Emmanuel Macron cette année, et Charles Hufnagel, le communicant du Premier ministre aujourd'hui à Matignon. Benjamin Griveaux lui cède son bureau à Bercy pour n'assurer que le porte-parole en remplacement de Christophe Castaner, qui conserve son secrétariat d'État en charge des relations avec le Parlement, un pied dedans et un pied dehors. À la tête du parti majoritaire La République En Marche. La double casquette toujours pour Christophe Castaner, une décision politiquement risquée qui peut être moins bien perçue et que cache assez mal ce mini et peu ambitieux remaniement.
Ludovic Piétonu, chef de la rédaction politique de France Culture, à propos du socialiste Olivier Dussopt qui rejoint donc le gouvernement, la direction du PS par la voix de Rachid Temal, annonçait dès hier soir qu'automatiquement Olivier Dussopt n'est plus membre du PS. Un gouvernement qui va devoir mettre en place en musique le plan d'action qu'Emmanuel Macron dévoile ce matin sur un sujet très actuel, celui des violences faites aux femmes. Discours très attendu du chef de l'État qui devrait faire de la question de l'égalité homme-femme la grande cause de son quinquennat. Parmi les mesures attendues, les associations d'accueil et de défense des femmes victimes de violences devraient voir leurs moyens augmenter. La formation des policiers et gendarmes sera améliorée. Une procédure de signalement en ligne des violences sexistes sera mise en place. Aux assises de Paris, les jurés ont délibéré pendant 9 heures hier soir. 9 heures avant de finalement suivre les réquisitions du parquet contre Abdelhakim Dekar, l'homme qui avait grièvement blessé un photographe en 2013 d'un coup de fusil à pompe dans les locaux du journal Libération. Abdelhakim Dekar a été condamné à 25 ans de prison assorti d'une peine de sûreté des deux tiers. On passe donc à l'actualité internationale, vous venez de l'entendre, et on parle de l'Égypte où 3 jours de deuil national ont été décrétés. Le pays a subi, on le sait, hier, la pire attaque terroriste de son histoire. Au moins 235 personnes tuées dans l'attaque d'une mosquée soufie dans un village du nord du Sinaï. Cet acte barbare n'a toujours pas été revendiqué, mais on sait que cette région du nord Sinaï est devenue ces dernières années l'un des plus virulents refuges de djihadistes affiliés au groupe État islamique. Dès hier soir, les autorités égyptiennes ont lancé des représailles contre ces terroristes auxquels le président Al-Sisi a promis d'opposer une force brutale au Caire. Précision avec François Umferkataji.
La réponse devait être rapide, elle le fut, du moins d'après l'armée égyptienne qui annonçait dès hier soir avoir déployé son aviation à la suite de l'attaque sanglante de Bir el-Abd. L'armée aurait ciblé plusieurs foyers terroristes contenant des armes et des munitions. Des informations en réalité très difficiles à vérifier. On sait que dans le Nord Sinaï, les djihadistes sont complètement intégrés à la population. Après leurs opérations, ils retrouvent leur famille et se cachent parfois dans les grandes villes. Hier soir, le président égyptien avait promis de répondre avec une force brutale à cette attaque. La brutalité des forces armées égyptiennes est pourtant aussi une stratégie qui a été à plusieurs reprises remise en question dans cette zone. Plus de détails sont aujourd'hui connus sur les circonstances de l'attaque d'hier. Elle a été menée par un commando d'une quinzaine d'hommes qui a tiré à l'arme automatique sur les fidèles après avoir fait exploser une bombe à l'extérieur du bâtiment. C'est l'attaque terroriste la plus meurtrière de l'histoire du pays. Pendant toute la journée d'hier, des pluies de condamnations sont venues du monde entier. Une attaque, vous l'avez dit, qui n'a toujours pas été revendiquée ni justifié par ses auteurs.
François Umferkataji au Caire pour France Culture. Une avancée à présent dans la gestion de la crise humanitaire des Rohingyas entre Birmanie et Bangladesh. Les deux pays ont conclu ces derniers jours, on l'apprenait aujourd'hui, un accord avec le Haut Commissariat de l'ONU aux réfugiés, le HCR, qui leur proposait son aide pour organiser le rapatriement de centaines de milliers de Rohingyas en Birmanie. L'opération devrait commencer sous 2 mois. Il s'agit d'assurer des conditions de retour et de sécurité acceptables pour les membres de cette communauté musulmane qui avait fui la répression du régime dans leur pays. Le Zimbabwe, lui, veut solder les comptes de 37 années de règne du président Robert Mugabe. Son successeur et ancien vice-président Emmerson Mnangagwa a prêté serment hier à Harare et dès sa prise de fonction, il a lancé une procédure particulièrement symbolique. Il promet des indemnisations à ces milliers de fermiers blancs du Zimbabwe descendants des anciens colons européens qui avaient été expropriés sans ménagement de leurs terres dans les années 2000. Premier pas vers une réconciliation nationale analysée pour nous par la spécialiste de l'Afrique australe, Augusta Conquilia.
La question d'indemniser les fermiers blancs, c'est effectivement une question qui vient de ce référendum que Mugabe avait perdu en 2000 et qui visait à autoriser la saisie sans indemnisation de ces fermiers qui donc étaient un peu l'héritage colonial puisqu'ils contrôlaient l'essentiel des terres. Mais le référendum a été rejeté par la population pour une raison essentielle qui était que jusque-là, les mesures qui avaient été prises pour le début d'une réforme agraire n'avaient en effet bénéficié qu'une nomenclature de la ZANU ou des personnes qui n'étaient même pas en mesure de récupérer ces fermes pour en faire des activités valables. Donc voilà, il s'agit maintenant de comprendre quels sont les vrais enjeux, c'est-à-dire d'une part la réconciliation nationale, si l'on veut dire, puisque les Zimbabwéens blancs sont des Zimbabwéens quand même, et aussi une certaine respectabilité internationale, parce que la façon comme on a saisi ces fermes a provoqué une irritation internationale et le début des sanctions qui sont encore en vigueur aujourd'hui.
Augusta Conquilia, spécialiste de l'Afrique australe au mensuel Afrique-Asie, elle était jointe par Nabila Hamel. Un mot de météo, enfin, avec le soleil qui va prendre de la place progressivement dans la journée entre la région parisienne et le centre, également autour de la Méditerranée. Les pluies ce matin autour des côtes de la Manche et puis des Pyrénées jusqu'aux frontières de l'Est vont progressivement s'estomper. Les températures cet après-midi seront comprises entre 5 et 17 degrés du nord au sud de l'Hexagone. Les journaux de cette matinée étaient réalisés par Emmanuel Faucillon. À 12h30, c'est Anne Fauquemberg qui vous présentera la prochaine édition sur France Culture.